SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Au sommaire, l'Australie accueille sa toute première déléguée contre l'antisémitisme. Et au lendemain d'élections législatives historiques, la France est plongée dans l'incertitude sans majorité nette à l'Assemblée nationale. Et à la veille d'une réunion de l'OTAN aux USA, Washington rassure ses alliés quant à la capacité du président Biden à effectuer son travail. Le gouvernement a nommé l'avocate et femme d'affaires Gillian Segal comme première déléguée australienne contre l'antisémitisme. On s'attendait à ce que ce poste soit créé en même temps qu'un délégué contre l'islamophobie, ce qui, selon le gouvernement, sera annoncé sous peu. Madame Segal conseillera le gouvernement sur les questions liées à l'antisémitisme et s'engagera auprès de la communauté pour accroître la cohésion sociale. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que la lutte contre les sentiments antisémites est particulièrement importante à la suite du conflit en cours au Moyen-Orient.
It is important that we combat discrimination in all of its forms. We have seen since October 7 last year a significant rise in anti-Semitism in Australia. And that is why the government has made the decision to appoint a special envoy on anti-Semitism. And I'm very pleased that Gillian Segal has agreed to take up that role.
La ministre fédérale chargée des affaires aborigènes, Linda Burney, a déclaré que le gouvernement s'était engagé à créer une commission chargée de révéler la vérité. L'échec du référendum à Voice to Parliament l'année dernière a été considéré comme un coup dur porté à la cause des peuples premiers. Mais Mme Burney a déclaré à la ABC que la vérité n'est pas du seul ressort du gouvernement et que toutes les communautés devraient se pencher sur la question de diverses manières. Au cours de la semaine du Night Talk, la semaine en cours, Mme Burney a déclaré qu'elle ne pensait pas que les affaires autochtones sont une question clivante. Elle accuse cependant la coalition d'avoir brouillé les débats en refusant de soutenir la voix aborigène au Parlement. Cependant, Linda Burney affirme que le fait que des millions d'Australiens aient voté pour The Voice to Parliament, l'émergence des jeunes dirigeants autochtones et l'attention portée aux désavantages autochtones ont tous été des aspects positifs après l'échec du référendum. Les habitants d'Alice Springs se sont réveillés après la première nuit d'un couvre-feu visant à réduire la criminalité dans la ville. Le couvre-feu de 3 nuits appliqué par la police locale s'applique à toutes les personnes au centre-ville entre 22h et 6h du matin. Ce couvre-feu a été décrété après une vague de criminalité le week-end dernier, dont une bagarre impliquant 80 personnes. Selon Robin Lamblay, une députée indépendante au Parlement du territoire du Nord, la population locale est soulagée par cette mesure. Elle a déclaré à la chaîne 7 Network qu'une solution à plus long terme devrait être trouvée, impliquant l'adhésion surtout de l'ensemble de la communauté et en particulier des organisations autochtones locales.
Well, the long-term solution is very difficult, and we've all been chipping away at that for many decades. It's about housing. It's about making sure kids go to school. And we have to make everyone who gets government funding accountable for where that goes. There's a lot of questions around whether or not some Aboriginal organisations are actually delivering for their people. It's an ongoing problem. We can never take our eye off the ball, and we need as much help as we can get.
Le gouvernement fédéral s'engage à consacrer 6,3 millions de dollars supplémentaires au renforcement de l'infrastructure bancaire dans la région du Pacifique. Cet argent vise à améliorer la sécurité financière en encourageant les banques australiennes à rester dans la région. Cela intervient au moment où l'Australie s'efforce de plus en plus de consacrer des ressources à la région, surtout pour contrer les tentatives de la Chine d'y gagner une influence. Et début en France des tractations entre formations de gauche qui ont remporté les législatives des 30 juin et 7 juillet afin de proposer le nom d'un potentiel futur Premier ministre. Emmanuel Macron a reconduit Gabriel Attal pour diriger les affaires courantes et il semble très difficile de dégager une majorité gouvernementale dans une assemblée très divisée, d'autant que les compromis, les coalitions et les négociations transpartisanes ne sont pas dans sa culture politique. Pour rappel, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, suivi par le groupe Ensemble de la mouvance présidentielle. Et contre toute attente, le Rassemblement national est arrivé en troisième position. Charlotte Urien-Tomaka de RFI revient sur de nombreuses surprises, tant du côté des candidats vainqueurs que de celui des perdants de ce scrutin historique.
Grand perdant de cette dissolution, l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran, figure du camp Macron et candidat à sa réélection, il n'a recueilli que 40,24% des voix en Isère, où il se présentait. Fin de parcours également pour Sarah El Haïry. La ministre déléguée chargée de l'enfance faisait face dans une triangulaire à un candidat RNLR et un candidat du Nouveau Front Populaire. En Loire-Atlantique, cette figure du MoDem a échoué à moins de 2 points de sa réélection. Le marcheur de la première heure, Stanislas Guérini, qui avait dirigé le parti présidentiel pendant 4 ans, a été battu par Léa Balage-Elmariki, candidate écologiste. Avec 12 points de retard au premier tour, il n'a pas réussi à inverser la tendance dans la troisième circonscription de Paris. À gauche, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, a été battue dans le Tarn-et-Garonne par la candidate Les Républicains Brigitte Barège, soutenue par le RN. Un coup dur pour cette figure du Palais Bourbon, dont le nom revenait avec insistance pour prendre la présidence de l'hémicycle. Fin de 30 ans de mandat pour Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France n'a pas réussi à passer l'épreuve de la triangulaire dans son fief de l'Essonne. Il cède son fauteuil à son rival insoumis Béranger Cernon qui met un terme au règne du souverainiste réélu à 5 reprises dans ce fief francilien.
Battu en France, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, monte en garde à Strasbourg où il a été élu président du groupe Patriote pour l'Europe, un nouveau groupe nationaliste créé par le premier ministre hongrois Viktor Orban. Comme nous l'explique Pierre Benazé, avec l'arrivée des 30 eurodéputés du RN, ce nouveau groupe va peser lourd au Parlement européen.
Le député qui représentait Jordan Bardella à Bruxelles ce lundi indique que les contacts et les négociations étaient déjà en cours, mais que le Rassemblement national a fait ça, je cite, discrètement pour ne pas interférer avec les législatives en France. Avec 84 députés, Patriotes pour l'Europe devient le 3e parti en nombre. Il y a 12 nationalités dans ce groupe et les contacts se poursuivent avec Giorgia Meloni, voire les Polonais du PiS, le parti droit et justice. Patriotes pour l'Europe voudrait gonfler encore afin d'obtenir non seulement des financements, des employés du Parlement, et surtout des présidences de commissions parlementaires. Pour l'instant, le défunt groupe ID était entouré par le cordon sanitaire qui l'empêchait d'accéder à quelque fonction que ce soit. Avec Patriotes pour l'Europe, le Fidesz de Viktor Orban sort de son statut de non-inscrit et avec ses alliés RN, il espère bien rompre ce cordon sanitaire qui serait, je cite, scandaleux au vu des millions d'Européens qui ont voté pour nos partis. Ensemble, ces 12 partis veulent lutter contre l'immigration illégale, réformer la PAC ou le Pacte Vert Européen, enfin redonner leur souveraineté aux nations face à une Europe hyper-fédéraliste.
Et l'Australie s'est jointe aux condamnations internationales des dernières attaques meurtrières des missiles russes contre l'Ukraine, notamment contre un hôpital pour enfants dans la capitale Kiev. Au moins 41 civils, dont 2 enfants, ont été tués lors de rares attaques aériennes diurnes à travers le pays. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que ces attaques étaient odieuses et que l'Australie continue de soutenir le peuple ukrainien. Elle estime que la guerre menée par la Russie en Ukraine est à la fois illégale et immorale. L'ambassadeur d'Ukraine en Australie, Vassil Mirochnienko, a déclaré que cet incident était l'un des pires attentats jamais enregistrés. Il affirme que l'hôpital pour enfants attaqué est un hôpital très important qui traite des cas très complexes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de se venger de ces attentats.
Безперечно, ми все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і безперечно ми відповімо.
Beyond any doubt, we are going to rebuild everything that these terrorists have destroyed. And beyond any doubt, we are going to answer these savages from Russia. Everyone that was injured will get all necessary help. And we pledge to work on bringing Russia to justice for the terror and Putin for his orders to carry out these strikes.
Un porte-parole du président américain Joe Biden a démenti les informations selon lesquelles les alliés des États-Unis cherchaient à obtenir des assurances quant à la capacité de M. Biden à effectuer son travail. Des doutes ont été soulevés quant à la capacité de M. Biden, qui est âgé de 81 ans, à rester président des États-Unis après une mauvaise performance lors d'un débat électoral le mois dernier. Mais avant une réunion des pays de l'OTAN et d'autres alliés des États-Unis à Washington cette semaine, le porte-parole de M. Biden en matière de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les partenaires américains étaient satisfaits des capacités de M. Biden.
I think the question presupposes the notion that they need to be reassured of American leadership and President Biden's commitment, and I don't believe that's the case. We're not picking up any signs of that from our allies at all, quite the contrary.
Et l'attaché de presse de M. Biden, Karine Jean-Pierre, a été contrainte de démentir les informations selon lesquelles le président américain serait traité pour la maladie de Parkinson. Ces informations avaient commencé à circuler après qu'il soit apparu dans les registres des visiteurs qu'un médecin spécialisé dans le traitement de cette maladie, le docteur Kevin Canard, s'était rendu à la Maison-Blanche 8 fois au courant de l'année passée. Et pour éviter un procès embarrassant, l'avionneur américain Boeing a conclu un accord de plaider coupable avec le ministre américain de la Justice, le Department of Justice, dans le dossier pénal lié aux deux accidents de 737 MAX en 2018 et 2019, des accidents qui avaient coûté la vie à 346 personnes. Nicolas Feldman des RFI revient sur les dessous de cet accord.
En plaidant coupable, Boeing reconnaît avoir bafoué un précédent accord datant de 2021. Celui-ci imposait à l'avionneur de mettre en conformité plusieurs de ses appareils, dont le 737 MAX 8 impliqué dans les deux crashs en Éthiopie et en Indonésie. Pour ces manquements, le constructeur aéronautique accepte de payer une amende de 243 millions de dollars. Il devra aussi investir près de 2 fois plus dans des programmes de conformité et de sécurité. Boeing s'évite ainsi un procès et donc une condamnation, mais le groupe pourrait néanmoins être fragilisé pour conclure de nouveaux contrats avec le gouvernement et les militaires, des contrats essentiels puisqu'ils représentent le tiers du chiffre d'affaires de l'avionneur. Les familles de victimes se disent aujourd'hui très déçues. L'un des avocats confie « Beaucoup de preuves démontrent que la culture de Boeing est de privilégier les profits à la sécurité. Les parties civiles ont d'ores et déjà demandé à ce que l'accord soit rejeté lors d'une prochaine audience. »
Et pour conclure l'actualité, un coup d'œil météo. Il pleut pratiquement partout à travers le pays, sauf à Darwin, donc je me contente de vous donner les températures maximales dans les principales villes. Perth, 22 degrés, Adelaide, 17, Melbourne, 14, Hobart, 14, Canberra, 14 également, Wollongong, 19, Sydney, 18, Newcastle, 19, Brisbane, 23, Cairns, 27 et Darwin, comme je l'ai souligné un peu plus haut. Temps ensoleillé, un maximum de 33 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.